Je voulais simplement donc étudier ce soir un texte qui se trouve dans le livre de Horus, qui est un des principaux ouvrages de Van Cook, et où, en particulier, il a donné déjà depuis une génération, plus d'une génération, toute une série d'enseignements qui étaient littéralement préfiguratifs, je n'ose pas encore dire prophétiques, mais ce serait le terme que je voudrais employer, concernant toute une série de problèmes qui se posent dans la génération actuelle. Bien entendu, d'une façon générale, il s'agissait de cette vision qu'il a eue déjà en son temps, de la réalité des événements même que nous vivons, c'est-à-dire de la réalité de la fin de l'exil. Et nous nous trouvons, quelle que soit la sympathie que, en tant que public, vous avez avec les implications du sujet, nous nous trouvons évidemment dans une communauté de diaspora, et par conséquent, cela vaut la peine, je pense, de revenir sur l'analyse de ce problème. Est-ce que, vraiment, nous vivons la fin de l'exil ? Quel que soit, d'autre part, le caractère indéniable de la résurrection d'Israël en tant qu'État, il semble que la diaspora se perpétue et est destinée à se perpétuer encore pendant longtemps, je suppose. Mais est-ce que dans le principe, on peut parler de la fin de l'exil et quelle signification a cette expression ? Et vous avez dû remarquer, à l'intérieur même de ce problème, vous avez dû remarquer que non seulement notre génération vit cet événement considérable que j'indique donc avec un point d'interrogation, est-ce que c'est déjà le début du temps messianique, le début de la délivrance, puisque c'est corollairement le temps de la fin de l'exil, mais indépendamment donc de l'événement massif que je désigne ainsi, il y a un étonnement qui nous prend, tant pour ceux qui vivent en Israël même, que aussi d'une manière analogue pour ceux qui vivent encore en diaspora, j'enlève encore pour ceux qui vivent en diaspora, un certain étonnement devant l'État, semble-t-il, de niveau moral, apparemment dégradé, dans lequel se trouve la génération actuelle. Cette année en particulier, et c'est pourquoi j'ai pensé à choisir les textes qui se réfèrent à cet aspect de la question, cette année en particulier, on a parlé de toute une série de scandales, et non seulement au niveau de la vie politique, mais de la vie sociale, et ce qu'on nomme en hébreu « shritut », et qui est un mot assez fort en hébreu, qui indique le sens moral même du mot de scandale, et il y a donc un étonnement qui ne peut pas ne pas apparaître dans cette contradiction apparente entre la grandeur de la génération à la hauteur et au niveau de la grandeur des événements qu'elle vit, et d'autre part, si j'ose dire, de la petitesse apparente au niveau de l'intégrité morale en particulier. Voici, si vous voulez, sur quel aspect du sujet nous allons réfléchir, en nous référant à un texte du Rav Kook qui prévoit cet état des choses, et nous allons essayer de comprendre comment il l'explique, et non pas comment il le justifie. Un tel état de choses n'a pas à être justifié, ce n'est pas le problème exact, mais comment il nous fait comprendre, il le normalise, il nous fait comprendre qu'il s'agit là d'un processus non seulement inévitable, mais qui a en lui-même une signification positive, quel que soit le paradoxe apparent de cet adjectif ici. Voilà, et j'ai choisi donc ce sujet en relation de nouveau avec le thème général de Pessah, puisque dans les événements de la sortie d'Égypte aussi, et nous trouvons ce même paradoxe, ce même étonnement. La grandeur de la génération de sortie d'Égypte, qui a été appelée à vivre les événements de la fin de l'exil que raconte la Torah dans le livre de l'Exode, et d'autre part le récit que nous fait la Bible elle-même, non pas des fautes, ce mot serait ou trop grand ou trop faible, mais des difficultés et des contradictions d'identité apparentes entre ce qui est dit d'Israël d'un côté du point de vue de la définition de sa grandeur et d'autre part ce que dit le récit lorsque le récit raconte les péripéties de tous ces échecs et de tous ces risques d'échecs et de toutes ces contestations avec sa propre identité qu'Israël a connue dans cette génération-là. Il faut toujours se méfier bien entendu des comparaisons trop schématiques, mais on pourrait dire que jusqu'à ce détail-là, il y a une analogie très frappante entre la génération de la sortie d'Égypte et notre génération qui vit les événements de fin d'exil de notre temps. Donc toute une série de thèmes et de problèmes qui apparaissent dans cette analyse introductive et que nous allons retrouver dans leur ordre à propos des textes que nous allons suivre. Et alors, ceux d'entre vous qui peuvent suivre en hébreu, on vous a distribué une photocopie du texte. Et bien entendu, je lirai simultanément en hébreu et en français, et nous réfléchirons à propos de chacun de ces paragraphes aux problèmes que cela pose. J'ai choisi quatre thèmes, je pense que nous aurons le temps ce soir de les voir. Je suis un peu gêné par le caractère non pratique de la technique moderne. Ouais, j'ai quand même essayé. Bien. Vous prenez, s'il vous plaît, le paragraphe 46, même grave, dans la deuxième page, dans la page C, et je vais recommencer par ce texte. Bien, je crois qu'on pourrait, avant même de lire, formuler le thème dont il va s'agir ici de la manière suivante. Toujours dans l'analogie avec la génération de la sortie d'Égypte, dont l'histoire est commémorée à Pessah. C'est le fait qu'il y a un contraste entre le niveau de sainteté qui définit Israël en tant que clan, ça signifie en tant qu'identité collective, en tant que clan, en tant que manière d'être homme dans son groupe, en tant qu'identité collective, Israël est kadosh, et cependant l'apparence de chol. Chol, c'est le terme que l'on traduit par profane, dans la manière dont s'exprime au niveau de la vie concrète, dont on s'exprime tout court cette insertion de la Kedusha d'Israël dans l'histoire. Et ceci, nous le voyons aussi dans le contenu des récits de l'Exode. C'est-à-dire que l'événement de la sortie d'Égypte par Israël, c'est l'événement de l'émergence d'une identité humaine qui est vouée à la sainteté et qui sort littéralement, qui est d'ailleurs expulsé, mais qui sort d'une civilisation païenne, la civilisation de l'Égypte antique. Le contraste entre la Kedusha d'Israël et le caractère chol, donc profane, de la civilisation dont Israël décroche en ce temps-là, est très clair dans le récit biblique. Et cependant, encore une fois, dans le contenu des péripéties des événements de la génération du désert, comme on dit habituellement, de la génération de la fin de la galoute, apparaît de nouveau ce caractère chol, c'est-à-dire une sorte de distance entre les individus d'Israël, ceux dont on nous raconte le récit de la contestation contre Moïse en particulier, et le caractère de Kedusha du clan Israël. Et nous retrouvons cette apparence de nos jours. Apparemment, il semble que la société israélienne, en tant qu'elle est au cœur de l'histoire du peuple juif, il s'agit du peuple juif tout entier finalement, que la société israélienne, dans son apparence, soit une société chol, c'est-à-dire dont le projet d'existence est distancié, si j'ose dire, de la sainteté, de la Kedusha, comme la Torah la signe, comme projet ultime. Et cependant, c'est de cette même société qu'il se ravit qu'elle est le véhicule de la sainteté, le véhicule de la Kedusha. Est-ce que vous comprenez le sujet que j'essaye de distinguer? Alors, le Rav introduit dans la préfiguration de ce problème une notion très importante, la définition de la Kedusha qu'il y a dans le Chol, c'est-à-dire de la sainteté qu'il y a en réalité à l'intérieur de l'apparence du profane dans le cas d'Israël. Et nous allons lire ce texte immédiatement. Keshem, Shenishmat Ha'adam, Hi Yoter Eliona, Yoter Pnimit, Mehamalachim. Un premier thème apparaît ici, dans le début de la phrase. De même que l'âme, la Neshama, l'âme de l'homme, est plus supérieure et profonde, intérieure, à la fois supérieure et intérieure, c'est-à-dire profonde, de même que l'âme, ce qui fait être les hommes, et donc de même que l'âme de l'homme est supérieure à celle des anges, il y a là un thème donc, que nous reprendrons en parenthèse tout à l'heure, la différence entre l'homme et l'ange, un problème difficile tant qu'on ne sait pas ce qu'est l'ange, mais il y a aussi ce même paradoxe qui apparaît, du point de vue de leur essence, les anges apparaissent comme supérieurs à l'homme, disons dans la cohérence du récit biblique, ils sont plus kadosh par essence, et cependant, du point de vue du mérite d'être, ce sont les hommes qui sont supérieurs. Si cela est nécessaire, nous reprendrons ce problème en lui-même tout à l'heure. Mais ici, le rabbin utilise le rappel de ce principe pour son raisonnement. Donc, de même que nous savons d'autre part que l'âme de l'homme est supérieure, en réalité, quelles que soient les apparences, à l'âme de l'ange, Vedaska mi bene juvata yarda rane tarkita madrega, ça c'est déjà une phrase très importante, et que c'est précisément par cause de sa grandeur qu'elle a pu descendre jusqu'au niveau le plus inférieur de l'existence, c'est-à-dire les anges sont plus que Doshim, ils sont en haut. Et la raison qui fait qu'il a été possible à la Neshama de l'homme, à l'âme de l'homme, de descendre jusqu'au niveau de l'existence du corps terrestre, c'est qu'elle en est capable parce qu'elle est plus haute en réalité. C'est-à-dire la Neshama de l'homme qui descend plus bas que l'ange vient de plus haut que l'ange. Voilà donc le principe qui est rappelé. C'est clair jusque-là. C'est-à-dire c'est ce qui était le plus intérieur qui devient le plus extérieur dans l'histoire de la création. Par conséquent, ce qui est le plus dehors ou en bas, c'était ce qu'il y avait le plus dedans ou en haut. Eh bien, de même, ou Misham Tarale Birkujel Veatsun, et que lorsque l'âme de l'homme remonte en haut, elle remonte avec un trésor d'acquis, c'est l'acquis du mérite, Vetarchir et Tarolam Kulo, et par cela, elle rendra cachère. C'est le sens, elle cachérisera, comme on dit en français, je ne sais plus, elle fera réussir, si vous voulez, le monde tout entier, Emma, avec elle, la Alia et Yona Mekorit, au niveau de la plus haute grandeur originale et originelle, qu'elle a Kodesh et Bachot, de la même manière pour la sainteté qu'il y a dans le profane, pour le Kodesh qu'il y a dans le Chol. C'est-à-dire, il apparaît là donc une catégorie très importante en soi, que dans le Chol, il y a du Kodesh, et que ce Kodesh qu'il y a dans le Chol est plus grand que le Kodesh qu'il y a dans le Kodesh. Et ça peut apparaître comme paradoxe, mais vous comprenez l'impact de ce principe, dès qu'on comprend l'intention du Rafou dans cet enseignement, de définir le stade au fond que nous vivons de l'histoire d'Israël. Apparemment, c'est une histoire chol, je dis dans les apparences, mais dans ce chol en Israël, en ce qui concerne Israël, il y a un kodesh, et le kodesh caché dans ce chol est plus grand que le kodesh du kodesh. Est-ce que vous avez déjà compris la formule pour elle-même? Ensuite, nous en verrons l'utilisation. Et vous comprenez bien que si ce n'est pas le Rafou qui disait cela, on ne pourrait pas l'entendre. Et vous voyez que ça se relie un peu au thème que nous avons analysé avant-hier, je crois, c'était avant-hier, ça, oui, concernant la différence entre le Nes Nistar et le Nes Begaloui. Le miracle caché est plus grand que le miracle dévoilé. Le miracle dévoilé ici est à la hauteur de Kodesh Sheba Kodesh, la sainteté qu'il y a dans la sainteté, alors que le miracle caché est au niveau du Kodesh Sheba Chol, c'est-à-dire de la sainteté qu'il y a dans le profane. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure que de tels principes sont difficiles à intégrer finalement si on ne prend pas comme principe de méthode la différence qu'il y a entre le clair et le prat, c'est-à-dire Israël comme identité collective, où tout ceci peut être entendu avec évidence. À l'échelle de l'identité collective, on peut comprendre qu'est-ce que ça peut signifier s'il y a une sainteté cachée dans l'apparence séculière, comme nous disons en français profane, alors qu'à l'échelle de l'individu, bien entendu, cela est encore beaucoup plus caché, cela est beaucoup plus difficile. Or, nous rencontrons les individus, et c'est pourquoi il me semble qu'il y a une contradiction entre ce que les prophéties disent de notre temps et ce que les journaux ont dit, si vous voulez. Parce que c'est au niveau des individus, de l'individuel, que nous rencontrons les problèmes. Mais dès que nous pensons ce problème à l'échelle du clan, cela devient plus audible, si j'ose dire. Mais ce qu'il faudra, c'est essayer de comprendre la finalité de cela. Alors donc, le premier principe. Quand même, je pense, un éclairage à ce sujet. C'est-à-dire, c'est un problème, finalement, de métaphysique théologique très important. il y a deux manières d'être des choses dans le monde. Certaines sont saintes et d'autres sont profanes. Et il faut savoir d'ailleurs qu'en hébreu, le mot de, que nous traduisons par profane, le mot de chol, ça veut dire littéralement profané, plus que profane. Chol, ça veut dire vide. Chol, comme vous savez, c'est un trou. C'est-à-dire que dans le plein du monde, il y a des vides. Et c'est une sorte de retrait de sainteté qui fait apparaître ce que l'on appelle le profane, mais qui donc littéralement à l'origine est profané. Profané par le fait que la sainteté y a été retirée. Si vous voulez, c'est le niveau de densité de Kedusha, et la Kedusha, c'est là où on perçoit et où l'on expérimente que c'est bien un Dieu qui a créé ce monde. Donc, que à ce niveau d'expérience, on a l'expérience de la Kedusha. Un être plus être, il est kadosh. Une valeur plus valeur, c'est ça kadosh. Là où les choses sont intenses, denses, et donc portent avec elles l'évidence de la Kedusha, du point de vue de l'expérience religieuse, c'est-à-dire l'expérience de cette évidence que cela valait la peine d'exister, que c'est donc bien Dieu qui a créé cela. On ne peut pas dire cela d'emblée de toutes choses dans le monde. Il y a des choses dans le monde où on ne peut pas dire que c'est évident, que c'est un bien que cela soit, et que c'est évident que c'est le Créateur qui les a créés. Mais il est bien clair d'autre part que rien ne peut être, dans la cohérence du principe de la notion de création, que rien ne peut être si Dieu ne le fait pas être. Si ce schéma, cet influx d'existence qui vient du Créateur perpétuellement à la créature, est indispensable pour toute chose. À la limite, on explique que le mal lui-même contient une étincelle de cette Kedusha, sinon le mal lui-même ne pourrait pas exister. On a enseigné à propos du nom de l'ange du mal qui est Samael, même dans le mot de Samael, il y a elle, et qu'à la fin des temps, Sam disparaîtra, mais ça sera elle. Il ne restera que elle. Il faut le dire en hébreu. Sam, ça veut dire le poison. Et c'est le nom que l'on donne. Bon, par exemple, le poison. Il y a du poison dans le monde. Et toutes les choses qui empoisonnent. Eh bien, on ne peut pas dire de cela que c'est kadosh. D'autre part, ça ne peut être, ça ne peut exister que parce qu'il y a une certaine kedusha cachée qui le fait exister. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus difficile, si j'ose dire, pour le Créateur de faire exister le rôle que de faire exister le Kodesh. Parce que le Kodesh lui est compatible, lui est homogène. Et l'effort qu'il faut faire pour faire exister le contraire du Kodesh est plus grand. Donc la Kedusha qu'il faut donner au Chol pour que le Chol existe est plus grande que la Kedusha qu'il faut donner au Kodesh pour qu'elle existe. Vous avez compris le raisonnement. Au niveau d'ailleurs des valeurs morales, c'est l'idée qui se trouve dans l'attribut qui se dit en hébreu « Nefo Pesha ». On traduit habituellement que Dieu enlève la faute. C'est une des notions du pardon, Nesot Pesha. Le fait enlever la faute. Mais le tonnerre de Bora a enseigné le tchat même de cette expression, ça veut dire que Dieu supporte les fautes. Et lorsque un homme fait une faute, en quelque sorte, il oblige Dieu qui fait exister tout, il oblige Dieu à laisser faire que cette faute, et c'est très féminin pour le kadosh de supporter le rôle. C'est la même idée. Il y a plus de difficulté d'être dans le non-être, si j'ose dire, que dans l'être lui-même. Alors, ce rôle a un kadosh intérieur, un kodesh intérieur qui le fait exister. Alors, je reprends la fin. Ken a Kodesh Shebachol, c'est la ligne de la troisième ligne, c'est Yarad Ad Lideh Hulin Adurin, qui est descendu jusque au niveau des choses profanes, dont l'idée de, apparemment de Kadosh, des choses profanées, radicalement, Adurin. Je reprends très légèrement cette racine, Chol, ça veut dire un trou, un vif, c'est l'idée de Nekeva, et cette même racine se retrouve en hébreu dans le mot qui veut dire maladie, par exemple, cholé, le malade, mahala. Cette même racine, dans une forme plus intensive, derrière la racine halal, halal qui veut dire vie absolue, et qui veut dire notre propre cadavre. C'est-à-dire, on suit, si vous voulez, les niveaux de la profanation. L'être profané se perçoit dans la maladie. Et l'être profané absolument se perçoit dans le cadavre. Et le cadavre s'appelle halal, ça veut dire la profanation absolue, parce que c'est la plus grande profanation, la rencontre du cadavre. Ça veut dire que la kedusha a été présente, mais elle a été retirée. Dans ce sens. Et par conséquent, à travers l'âme de l'homme, descend jusqu'au plus bas degré de l'existence une kedusha qui fait exister les plus bas niveaux de l'existence. Et ce qui se dévoile là, c'est que cette kedusha est supérieure à la kedusha du Kodesh. Comprenez pourquoi nous trouvons, en ce qui concerne l'enseignement de la Torah par rapport à la sainteté du temple, cette idée de Kadosh et de Kodesh à Kodashim. Il y a le saint et le saint des saints. Et il y a Madrigot de Kedusha. Il y a des niveaux dans la Kedusha. Il y a pareil, une idée extrêmement importante, un principe extrêmement important, c'est que se trouve prisonnier des niveaux inférieurs de l'être, une Kedusha plus grande. C'est la plus grande Kedusha qui se trouve cachée dans les niveaux inférieurs de l'être. Donc, le Kodesh Shebachol, Hu Yoter Nisgav Rekadosh, mais un Kodesh Shebachol. C'est l'idée que nous avons vue jusqu'à présent. Et là, chez Hu Mistater Harve, mais il est très caché, il est occulte. Enkes v'tachlit v'tikune ha'olam sh'yavuru mikolato rabba l'olam v'derer chol. Je reprends cette phrase en français. Et il n'y a aucun terme ni aucune fin au tikunim, c'est-à-dire aux enrichissements, à la mise au point du monde qui viendront de tout le bien qui vient de ce qui vient dans le monde v'derer chol par le biais, par le chemin de cette réalité profonde. Ce n'est pas encore dit dans le texte, mais vous comprenez que le Rav ici enseigne ce principe par rapport à la réalité d'Israël. Nous étions partis de cette contradiction apparente, de ce jusque paradoxe, que la Torah nous dit d'Israël qu'il est la Kedusha Gomora, la sainteté absolue, mais l'histoire semble nous montrer qu'il y a Chol, c'est-à-dire par la terre profane, dans les événements péripéties, la société ukrainienne, tout ce que vous voudrez, ou même tout simplement l'apparence que les juifs donnent de même, qui leur arrive de donner à l'échelle individuelle. Ce contraste entre ce que la Torah dit d'Israël comme tel, c'est la sainteté absolue, et puis la perception de la réalité quotidienne. N'importe quel être pourrait être hol sans que ça fasse problème. Si Israël est hol, ça fait problème. D'où l'enseignement du Rav, ce n'est pas n'importe quel hol. C'est le hol le plus grave dans l'apparence, parce qu'il cache la sainteté la plus grande. Et donc, à la fin des temps, se dévoilera à travers des Erechol, à travers cette apparence profane d'Israël, Hodo Vahadao, les Etamoucha. Cette sainteté se dévoilera dans sa splendeur et dans sa beauté, si vous voulez, au moment approprié. C'est-à-dire qu'il arrivera un temps où ce qui peut apparaître comme profane dans l'identité d'Israël dévoilera sa transfiguration. Asher lo yé or yékarot v'kipor. Vaya le'et erev yé or. D'où ce verset extrêmement important que les kabbalistes citent souvent à propos de la fin des temps et que les kabbalistes contemporains citent aussi très souvent à propos de notre temps. Le verset dit « Il arrivera au moment du soir, il y aura lumière. » Au moment du soir devrait commencer la nuit et au moment du soir, il y aura lumière. Ça se relie aussi à ce que nous avons vu dans la Mishnah Ben Hashem Hashot, on l'appelait. C'est-à-dire au moment de Ben Hashem Hashot, alors que la lumière commence à décroître et que l'on croit entrer dans la nuit, vraiment, à ce moment-là, c'est au contraire la lumière qui apparaîtra. Et la raison pour laquelle les kabbalistes ont utilisé ce principe à propos de notre temps, c'est parce que déjà le Zohar, et le Zohar a été mis par écrit il y a très longtemps, le Zohar, en se basant sur ce verset, avait indiqué l'année 5728 comme étant l'année de la délivrance. Veraya, et il arrivera, et Erev, au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est que la valeur numérique du mot Erev est de 272, soustrait de 6000 des 6000 ans de notre calendrier, ça fait 5728. Et alors, à propos même de ce verset, il arrivera au temps du soir, c'est-à-dire à l'année 5728, il y aura de la lumière. Mais cette lumière, à laquelle on fait allusion dans le Sidour Ashkenaz, dans la prière du matin, disant « Or Hadash Al-Tion Tahir » une lumière renouvelée brille sur nous. C'est cette idée qui est indiquée ici. Très gênant ce micro, c'est un micro-hole, ça serait trop. Vous attendez quand même là? Bien. Alors, Veria, les RF, nous continuons parce qu'il y a beaucoup de tests à voir. Veria, les RF, il est or, et il arrivera au temps du soir, sera la lumière. L'Ishne, or, chez le Mashiach, chez Igalé, du Mera, bien. Devant, avant la lumière du Messie, du Mashiach, qui se dévoilera, qu'il se dévoile, c'est un souhait. Le plus rapidement possible, it orer koach hakodesh shemachol, s'éveillera la force de la sainteté qu'il y a dans le profane. C'est-à-dire qu'il y aura un stade préalable au stade de l'évidence de la lumière messianique, un stade où se dévoilera et où sera compris et perçu la force de sainteté qu'il y avait dans les conduites profanes d'Israël. Chez orer, le bereshit hidrologo est achol. Et vers Kol, il va vous bénichna de Nièche, Vélo, bénichna de Kutchavrichou, Zohar. Et en ce temps-là, le Zohar a dit que tout le monde parlera dans le langage de l'homme et non pas dans le langage du saint béni soit-il, c'est-à-dire dans le langage de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de d'emploi profane des catégories hébraïques. Enfin, exactement ce qui semble se passer. Dans le cadre, disons, sioniste de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire qu'Israël parle avec un langage humain, ça veut dire un langage désacralisé, comme on dit aujourd'hui, et non pas avec le langage de Kouchardikou. Israël parle le langage Chol, alors qu'il se sert du Lachon à Kodesh. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est indépendamment des contenus eux-mêmes, tels qu'ils sont expliqués, c'est de cette vision, en son temps, du Gaon de Vilna, du Rafou, c'est la chita de l'école du Gaon de Vilna, cette vision en son temps de ce qui allait advenir et qui advient de notre temps. Et il n'y a pas là une récupération dans le plan religieux par le Rafou de ce qu'est le rôle de l'identité. C'est pas du tout un problème de récupération, mais d'identification, de prévenir tout le monde que ça va se passer comme ça. Qu'il ne faut donc pas s'affoler. Mais plus encore, comme nous allons voir encore dans notre texte, ce n'est pas fini, ça ira encore beaucoup plus bas. Mais il faut savoir qu'il s'agit du stade du Kodesh qui est dans le Chol. Et que cette apparence était connue et diagnostiquée déjà par le Zohar, lorsqu'il parlait des temps de la délivrance, et donc il y a extrêmement longtemps, au temps de l'enseignement des Tanaïm il y a 2000 ans. Que lorsqu'on dit par exemple Maharif, ça s'appelle Maharif, et lorsqu'on dit Haaretz, un journal stable, ukrainien, eh bien on a l'impression que c'est Chol. Et c'est de ces choses-là que le Rav parle en disant que la Kedusha qui est dans ce Chol apportera un salut dans le monde. Dont on sera étonné parce que la transfiguration se fera. Et bien que ce soit un langage Chol et non pas le langage de Akadosh Baruch Hu, le langage qui est parlé par les juifs qui restent fidèles à ce langage. Le Havre Nehemar, et c'est à ce propos qu'il est dit dans un verset, Gam le Shoni Kolayom Tehege Karecha, Kiboshu Kihapu Mevachera. Même simplement le langage, témoignera de la justice, en fait de la justesse, plus exactement, de la cause d'Israël. Alors je voulais d'abord commencer par ce paragraphe pour mettre en évidence cette notion du Kodesh qu'il y a dans le Hol, et qui est apparemment supérieure au Kodesh qu'il y a dans le Kodesh. Est-ce que jusque-là tout vous a été clair, du point de vue dans les termes, tout va bien ? Pas de question. Alors, nous prenons maintenant le premier paragraphe, si vous voulez. Non, attendez, pardon. Oui, prenez le premier paragraphe, mais avant cela, je vais donc utiliser un autre texte du Rav qui ne se trouve pas dans les parchés que vous avez. Pour précisément fonder et expliquer cette notion que nous avons eue tout à l'heure, c'est qu'en Israël, le Chol, l'apparence du Chol, est en réalité un Kodesh intérieur, caché. Là, nous allons avoir une phrase difficile. Je vous demande d'avoir de la patience, parce que à la traduction simple, nous allons être choqués, secoués, et bien entendu, il est bien évident que l'explication arrivera à évacuer les difficultés. Ce que l'on trouve ici, c'est le cas en particulier de l'identité humaine dans l'identité d'Israël, parce qu'il y a une différence radicale de l'identité humaine du point de vue du problème, du sacré et du profane, enfin du Kodesh et du Chol, avec l'identité d'égoïste. Alors là, nous avons une formulation assez brutale, assez violente, mais comme je vous dis, ayez la patience de suivre l'explication. Alors, Rakoub dit ceci. Ce qui va noter la référence, c'est à la page 156 de Horoth, c'est le paragraphe 10. Ahirdel, Shebe, Aneshama, Aïfraeli, la différence qu'il y a entre l'âme d'Israël, lorsque le rabbin dans son langage dit israélite, le rabbin israélien seulement, ça veut dire qui concerne Israël en général. La différence qu'il y a entre la neshama israélite, asminta, son essence, ma via apenini, son monde intérieur, chez ifata, son espérance, son projet d'être, techunata, vaemdata, comment traduire cela, ses tendances et sa position dans le monde, ou ben nishmat agoïm kulam, et entre l'âme des goïm tous, les chol d'avotéhem, quel que soit leur niveau, cette différence-là, où yoter gadol est plus grande, le yoter amok est plus profond, mais à hevdel, que la différence, c'est de nefesh adam, de nefesh abéhema, qui vient entre le nefesh de l'homme et le nefesh d'abéhema. Je l'ai prévenu que c'était le bras. Behema, c'est-à-dire l'animal. Sheben Aharonim, parce que, dit le Rav, Sheben Aharonim, parce que c'est entre les secondes, c'est-à-dire entre l'homme et l'animal, Yesrak Hevel Kamouti, il n'y a qu'une différence de degré. Abad Ben Arishonim, mais entre les premiers, c'est-à-dire entre la Neshama d'Israël et la Neshama des Goïm, Shorer Hevel Asmi Kouti. Il y a une différence d'essence absolue. Bon, c'est un texte énorme. Alors, mais c'est au bénéfice de ce texte que le Rav avait enseigné d'autre part que le Chol en Israël, c'est du Kodesh, sous masque de Chol. Vous comprenez comment est le lien en tout cas des principes. Maintenant, nous allons revenir à cette deuxième citation pour essayer de la comprendre. Et, alors, il est bien évident que lorsque vous comprenez le problème. Il y a une première comparaison entre la Neshama d'Israël et la Neshama d'Elohim. Deuxième comparaison entre le Nefesh de l'homme et le Nefesh de la Behema. Et le Rav dit, la différence qu'il y a entre Neshama et Neshama, au niveau des Neshama, est incommensurablement plus grande, c'est la différence entre le Nefesh de l'homme et le Nefesh de la Behema. Adam, il y a aussi Israël. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une asymétrie en réalité dans la comparaison. Mais c'est vous savez, comprendre d'abord la différence entre Nefesh et Neshama. Nefesh, c'est la présence de l'âme elle-même, mais la présence du sujet humain au niveau de la vie corporelle, au niveau de la vie psychique. En effet, ça veut dire l'homme désigné en tant qu'il est être vivant. Alors, les animaux sont êtres vivants, les arbres sont des êtres vivants, et aussi les hommes sont des êtres vivants. Alors, à ce niveau d'être vivant, il y a une différence entre l'homme et l'animal. Mais c'est une différence de degré dans l'échelle des êtres vivants. Il y a une manière d'être vivant biologiquement de l'animal, et une manière d'être vivant biologiquement de l'homme. C'est différent, mais c'est dans le même monde. Est-ce que vous comprenez bien ce problème? Et dans l'être biologique de l'homme, y compris, il est impliqué le méfait en Israël. C'est-à-dire, prenons d'abord le premier coup de notion. Bien sûr, il y a une différence radicale entre la manière d'être de, vivant de l'animal et celle de l'homme. Mais finalement, comme dirait le livre de Job, cette différence par rapport au grand fait biologique et à la limite de la vie et de la mort au niveau biologique, c'est pas une différence. L'homme naît comme l'animal, se nourrit comme lui, fait des enfants comme lui, et il meurt comme lui. En tant qu'être vivant, il y a une différence, mais c'est pas une différence. Est-ce que vous comprenez pour eux? Bon. Maintenant, c'est l'homme, en tant qu'être doué d'âme, c'est pas selon le naissé, c'est-à-dire en tant qu'être doué de Nessama, à ce niveau-là, la différence qu'il y a entre la Nessama d'une manière d'être homme qui correspond au projet du Créateur pour du point de vue de l'être humain, pas seulement de l'être vivant, de l'avenir, de la destinée de l'être humain, et d'une Nessama qui ne correspond pas au projet du Créateur est incommensurable. Voilà ce que je veux dire, voilà, ça peut être bien clair. Ne lui faites pas dire, et ne me faites pas dire ce que je dis qu'il aurait dit, que les goïmes n'ont pas d'âme. C'est pas vrai que du tout qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une différence en tant qu'être biologique entre l'homme et l'animal. Tout le monde sait ça. Hein. Comme je l'ai dit souvent, il y a une différence entre le regard d'un bébé et un œil de bœuf. C'est une différence. Mais tout sauf à la limite, à lui pour lui, si je le dis, il n'y a pas de différence. au niveau du projet moral, du projet spirituel, alors ce que dans notre texte ici, le rappelle Nessama israélite, la Nessama d'Israël et la Nessama d'Égoïne, c'est une différence considérable, c'est une différence, il faudrait dire, plus grande qu'entre l'ange et l'homme. Lui l'a dit entre Nessama et l'homme. Est-ce que c'est bien clair? Alors maintenant, on comprend pourquoi dans le contenu. C'est une sorte de comprendre pourquoi le rap se dit, quand il concerne Israël, même le Chol et Kodesh, et non seulement que même le Chol et Kodesh, que ce Chol est plus grand que le Kodesh des Rois. Est-ce que c'est bien clair? Alors je crois qu'il faut retrouver notre analyse habituelle de ce que il s'agit de l'identité du clan, de l'identité d'Israël en tant qu'être collectif. Et vous retrouvez la analyse que vous avez certainement eu d'autre part suivant, c'est ceci. En tant que nation, enfin, en tant que groupe, en tant que société, Israël est la seule société qui est acceptée en tant que collectivité, la loi morale, enfin, le projet du Seigneur Elohim, le projet de, entre guillemets, à l'image de Dieu, comme étant sa charte d'identité. À la limite, si vous voulez, on peut dire que seule, il y a un verset qui le dit d'ailleurs, seule la société d'Israël peut être appelée vraiment une nation. Je veux dire, aucune nation au monde n'a accepté d'attacher son destin politique, son destin historique à la morale. Seul Israël comme collectivité et l'Élohim, et c'est l'événement de la sortie d'Égypte, a attaché son destin collectif aux lois de la morale. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Par conséquent, on pourrait dire que, à condition d'entendre le sens du mot comme il est en hébreu, que chez l'Élohim, les peuples, les nations, les cultures, il y a une nation. Mais c'est une Nessama humaniste, si je dis. Enfin, c'est bien entendu bien. Prenons l'exemple de l'Arche de la France. Puisque c'est la Nessama des Goïm que nous devons le mieux, puisque nous parlons sa langue. Sinon, on ne parlera pas sa langue. Eh bien, il y a un génie culturel de la France, et qui est une identité spécifique, une manière, une certaine manière de concevoir l'universel humain, et qui est propre à la France. Mais en aucun cas, cette identité de la France en tant que goy, de génie culturel, en aucun cas, elle ne se voulait, elle ne se veut, dirigée vers le stéréotype, non par la Bible, lorsqu'il parle du projet du Créateur pour l'homme, et en particulier au niveau de l'homme moral. Ce serait un non-sens de supposer que la France, comme dirait de Gaulle, que la France est à être jugée dans sa politique et dans son histoire au niveau des critères de la moralité et de l'ensemble des témoins. Enfin, je m'en appelle au miracle, mais vous l'aurez. Eh bien, c'est vrai pour tous les pays en tant que tel, c'est-à-dire toutes les identités nationales à l'intérieur de l'espèce humaine. Il y a un cas particulier et un seul, et c'est celui d'Israël, qui, comme tel, à la particularité de ce temps-là, a pris sur lui ce dessein qui consiste à attacher son sort inconditionnellement à celui des valeurs morales en tant que clave. Et ceci est un fait. Alors le rôle d'un clave de ce genre est connu. Ce qui n'est pas le cas pour les autres claves. D'ailleurs, les autres ne sont pas des claves, c'est des claves. Mais c'est une question qui manque surtout de celui du Deutéronome. Il n'est défini comme tel vraiment, il ne devient vraiment nation que par la Torah, enfin la loi, en tant que ça, de son identité nationale. Il y a un verset en particulier dans le Sefer Devarim qui dit Ayon Aye Nivyata Eram, c'est aujourd'hui que tu es devenu une nation. Et il y avait une identité hébraïque antérieure à la révélation de la Torah. Mais c'était encore une identité au niveau des tribus, au niveau des lignées, au niveau des familles. Et c'est au moment de la sortie des vies qui mène au Sinaï, qu'il y a la constitution, par le sacrifice de Pessah, la constitution de l'unité de l'identité nationale. Et je reviens à ce problème, c'est que cette génération de la fin de l'Église, cette génération de la fin de l'Église, a accepté de se constituer dans cette nation qui fait mystère aux égoïmes, lorsque l'égoïme parle du mystère d'Israël, il parle souvent de cela, ce mystère qu'il y a dans l'histoire humaine, c'est une nation à son histoire évaluée d'après les critères de la vérité morale. Ce qui est aberrant pour la sociologie d'aucune société. Le monde entier est habitué à distinguer la politique et la morale, l'histoire et la morale. Mais en Israël, il y a une infama qui est cette qualité-là, qui fait que même son rôle est collé. Voilà le lien entre les deux idées. Mais c'est tout bien fait. Alors, donc, nous pouvons dire tranquillement avec le rapport qu'effectivement, au niveau de l'esprit qui a mis Israël, la infama d'Israël, la différence par rapport à quelque culture que ce soit, est plus grande que la différence qu'il y a, disons, entre le système nerveux chez l'homme et le système nerveux chez le garçon. Après tout, le système nerveux chez l'homme ressemble au système nerveux chez le lapin, si vous voulez. Mais l'âme, là, c'est radicalement différent. Dans un cas, il y a Atom, Kroïm Adam, de l'Orient à Adam, Kroïm Adam, qui est dans le monde. Voilà, dans quel sens il faut entendre ce thème. Je dis souvent, d'ailleurs, là, sous cette forme, c'est qu'à l'échelle collective, c'est une nation, quelle qu'elle soit, c'est que le sens étymologique du mot « goy » à l'échelle collective, c'est la part d'amour. C'est l'identité du rachat. Parce que chaque nation, en tant que telle, au niveau de sa politique, au niveau de son état, au niveau de sa raison d'état, recherche ses intérêts, et tout le pied, les droits, non seulement les droits des autres, mais les droits de l'individu en général, les droits de la morale. C'est la charge d'amour. Mais à l'intérieur,